Et nous allons aujourd'hui dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les 9 premiers versets. Il s'agit de l'épisode de la tour de Babel. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, « Ainsi, ils sont un seul peuple. Ils parlent tous la même langue. Et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue. » afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Le Seigneur les dispersa de là, sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Babylone, brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Ce récit de la tour de Babel est souvent donné comme texte complémentaire au récit de la Pentecôte. C'est généralement, dans les trois textes qu'on nous suggère ce dimanche-là, les deux textes qui sont mis l'un en face de l'autre. Et on comprend bien pourquoi, puisqu'il y a d'un côté l'éparpillement, la dispersion des langues, l'incompréhension d'un côté, et le rassemblement, une nouvelle communion, de l'autre côté. Entre ces deux textes, c'est comme si on ouvrait la parenthèse au moment de ce texte que nous venons de relire, une parenthèse ouverte sur la quête humaine du divin, et pour la refermer au moment où l'Esprit permet cette communion et qui vient enfin, ce Dieu-là vient enfin habiter parmi nous. En quelque sorte, la boucle est bouclée. Ce récit, vous le savez, la dernière partie de ces premiers chapitres de la Genèse, avant le cycle d'Abraham, contrairement à la généalogie du chapitre 10, l'idée nouvelle, vraiment nouvelle, dans cette histoire de la tour de Babel, c'est que l'humanité, on ne nous le dit pas ailleurs dans la Genèse, l'humanité était un ensemble unifié, pas homogène, mais unifié, et qui parlait une même langue, caractéristique qui apparemment dérange Dieu, comme s'il était impératif pour lui de diviser pour mieux régner. Alors vous le savez, il y a des théories linguistiques que je ne vais pas rappeler ici, d'abord parce que je ne les connais pas moi-même dans le détail, mais il y a des théories linguistiques très nombreuses, très variées, des scientifiques très sérieux, très nombreux aussi, envisagent l'existence d'une proto-langue. C'est un gros mot, je m'en excuse, mais ça veut dire qu'il y avait une langue originelle, peut-être, et dont les langues postérieures seraient les dérivées. L'idée n'est donc pas nouvelle, hein, pour le récit de la tour de Babel. Cette idée déjà apparaît ici. Nos ancêtres auraient parlé quelque chose d'assez éloigné des langues connues et auraient ensuite émigré un peu partout, depuis l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient et en Eurasie peut-être, c'est une partie des théories qui le montrent, qui l'affirment, mais d'autres scientifiques parlent de plusieurs foyers d'expansion à peu près simultanés, sachant que l'à peu près c'est toujours quelques siècles ou quelques millénaires de décalage, on ne sait jamais exactement ce qu'il en est. Mais il y a plusieurs théories comme cela, qui essaie de montrer cette proto-langue, cette langue originelle, d'où auraient dérivé toutes les autres. Quoi qu'il en soit, ce qui apparaît à travers toutes ces théories, c'est que, apparemment, c'est la pente naturelle de l'être humain, des langues humaines en particulier, d'aller vers une diversification et une complexification croissante au gré des pérégrinations humaines sur la planète. Mais alors justement, si c'est leur pente naturelle, qu'elles le font toutes seules comme des grandes, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire et pourquoi cherche-t-il à intervenir ici ? Si c'est leur pente naturelle, si c'est un mécanisme qui fait que, qu'on soit d'accord ou pas, finalement, ces langues, de toute manière, évoluent de cette façon. Pourquoi est-ce que Dieu choisit d'intervenir? Pour le comprendre, il faut peut-être revenir au projet que forment les hommes dans ce texte. La fameuse tour qui est édifiée, hein, ce bâtiment, est envisagé comme une espèce de temple, une tour fortifiée aussi, et qui correspond à peu près, nous dit-on dans les notes savantes de nos Bibles, à une ziggourate babylonienne, c'est-à-dire un lieu de culte en même temps qu'un symbole de pouvoir. Il est et l'un et l'autre. Certains commentateurs pensent qu'il s'agirait peut-être de la construction d'une nouvelle capitale impériale, une ville qui se serait appelée Dur-Sharrukin, ça ne vous dit rien du tout, à moi non plus, ville dont la construction avait été ordonnée par un roi assyrien, probablement Sargon, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et les auteurs de ce texte se seraient inspirés de cet événement étrange, puisque la ville aurait été commencée, mais jamais terminée. Alors on ne sait pas exactement s'il faut rapprocher les textes bibliques forcément de quelque chose d'historique. Il y a probablement de l'inspiration là-dedans, mais on ne sait jamais si les faits se recoupent. Et puis ce n'est peut-être pas le plus important. Ce qui est important ici, c'est que ceux qui fabriquent cette tour et la ville qui est autour la mettent sous le programme intitulé « Faisons-nous un nom ». Qu'est-ce que ça veut dire « se faire un nom » ? Eh bien, l'expression que l'on trouve dans ce texte, dans Genèse 11, on la trouve ailleurs. Les hommes de renom, les hommes célèbres, ou ceux qui se sont fait un nom, on la trouve au tout début de l'histoire de Noé, dans le cycle du déluge, quelques chapitres auparavant, juste avant même le déluge. Il faut comprendre ces mots comme l'expression d'une autorité qui est réclamée par ces hommes, et même d'un pouvoir, pas simplement une autorité, une compétence. C'est un pouvoir qui est affirmé, et c'est peut-être justement ce qui décide Dieu à en finir une bonne fois pour toutes avec ce projet, non pas en détruisant tout, mais en changeant la destination de ce qui est en train de se fabriquer. Dans le cas de la tour de Babel, c'est la tentation d'assurer l'unité de l'humanité par une sorte d'impérialisme politico-religieux sur le modèle de Babylone ou de l'Empire assyrien. C'est ce que dirait la phrase « Faisons-nous un nom », c'est ce qu'elle contiendrait. Et la traduction que je vous ai lue traduit bien cette idée de ce jeu de mots entre le nom Babel, Babylone, et l'idée de brouiller, disperser. Dieu intervient par une mesure de brouillage, comme s'il fallait interrompre un signal. Et quelle est la conséquence de cette intervention de Dieu ? L'incompréhension. Ces hommes qui se comprenaient, qui parlaient tous une même langue, ne se comprennent plus. De l'autre côté de la terre, on ne comprend plus ce que disent les autres. Il faut se demander ici si cette incompréhension est une punition, une sanction ou une conséquence normale de ce que nous faisons, ou la fameuse pente naturelle de ces langues qui, de toute façon, nous amène un jour ou l'autre, vivant à l'écart les uns des autres, à ne plus nous comprendre. Peut-être que ça n'a pas une importance première pour comprendre ce texte, et c'est la raison qui fait que Dieu cherche à intervenir dans le projet de ces hommes qui veulent se faire un nom, plutôt que d'invoquer le sien. On le sait, la multiplicité des langues nous complique la tâche. Il suffit d'avoir visité une fois le Parlement européen ou de l'avoir vu une de ses sessions filmées comme ça avec tous ses traducteurs enfermés dans des cabines pour se rendre compte de la complexité de faire se parler des gens qui pourtant vivent les uns à côté des autres mais ne se comprennent déjà plus. Commerce compliqué, négociations compliquées, diplomatie compliquée. Mais surtout, quand on ne comprend plus exactement ce que dit son voisin, on ne peut plus le convaincre aussi facilement. On ne peut plus lui donner des ordres qu'il comprend immédiatement. On ne peut plus le soumettre aussi facilement qu'on le souhaiterait. On ne peut plus avoir la moindre maîtrise complète, en tout cas, des gens et des choses. C'est terminé quand on ne comprend plus exactement ou plus du tout son voisin. Vous avez sûrement éprouvé cette sensation vertigineuse en voyageant à l'étranger, quand vous débarquez un jour dans un pays où non seulement vous ne comprenez pas ce que vous entendez, mais vous n'avez aucun repère visuel, vous ne comprenez rien aux panneaux, dans la rue, dans les gares, dans les commerces. Vous êtes complètement perdu visuellement et auditivement. Vous êtes perdu, vous n'êtes décidément plus chez vous. Vous ne comprenez même pas un mot comme ça, de temps en temps, sur une phrase. C'est un alphabet ou des caractères chinois ou une autre manière d'écrire. Vous ne comprenez rien. C'est exotique au début. C'est l'exotisme qui prime. On est vraiment dépaysé. Ça tombe bien, on avait payé pour ça. On est allé très loin, on est sorti d'un avion, on est servi. Au bout de quelques heures, pour certains, de quelques jours pour les plus endurants, c'est le sentiment d'être perdu qui domine. Ça a changé beaucoup. À tel point que si le voyage dure un peu plus longtemps, quelques semaines, quelques mois, on est vraiment dépaysé, mais on est content de rentrer chez soi où enfin on peut lire, entendre et comprendre quelque chose. Vous avez tous éprouvé ce sentiment. Au-delà du dépaysement, ce sentiment de perte est bien présent. Seulement, les hommes de Babel, eux, ne voulaient pas d'exotisme. Ils ne voulaient pas être perdus pendant une semaine ou deux, le temps de se changer les idées. Ils voulaient se faire un nom. Ce n'est pas la même chose. Ils voulaient se faire un nom pour ne jamais perdre le pouvoir sur les hommes et les choses. Et quand on y parvient de façon durable, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression d'avoir touché le ciel, comme cette tour qui n'a jamais été terminée non plus. Le problème, c'est qu'ils avaient certainement, au-delà de cette arrogance, de cet orgueil, quelque chose de positif aussi qu'il faut retenir de cette attitude parce que ça n'est jamais ou tout bien ou tout mauvais. Ils avaient en tête de réaliser ce après quoi nous courons constamment toute la journée, réaliser une forme d'unité. Un vieux rêve humain. Le problème, c'est qu'on ne peut guère l'obtenir que par une forme de pouvoir sur les autres. Si on commence à demander aux gens leur avis, c'est terminé. Si vous avez un ascendant sur eux, un pouvoir de subordination, c'est déjà compliqué, mais ça marche un peu mieux. Plus vous êtes brutal, plus vous obtenez le résultat que vous cherchez. Mais si vous ne souhaitez pas cette brutalité, il faut faire avec l'éparpillement et la dispersion. Eh bien, eux n'avaient pas l'intention d'y renoncer. Ils cherchaient plutôt l'influence ou la contrainte, éventuellement la menace, pourquoi pas la séduction aussi. C'est une autre manière d'obtenir ce qu'on cherche. Ce n'est pas la volonté de trouver des passerelles, des liens pour faire unité entre les hommes qui est brouillée par Dieu. Parce que ça, au fond, c'est une chose que nous continuons à faire, à vouloir. Et nous avons bien raison. L'intervention de Dieu se justifie par le fait qu'il met du brouillage dans les moyens de pression qu'on utilise couramment pour l'obtenir. Il ne condamne pas l'objectif, mais une partie des outils ou des moyens que nous mettons en œuvre pour y arriver. Dieu n'intervient pas pour jouer les rabat-joie dans ce texte, pas plus qu'il n'a puni un peu plus tôt Adam et Ève, pas plus qu'il n'a condamné méchamment Caïn, après le meurtre de son frère, même si ça nous paraît mérité. L'intervention de Dieu sert dans ces trois grands textes, et donc dans celui que nous venons de relire, à placer les personnages dans le meilleur cadre possible. La réalité, plutôt que les fantasmes de toute puissance, pour Adam et Ève. La grâce, plutôt que la conscience qui accuse, pour Caïn. Et dans notre texte du jour, la volonté d'unité et d'universalité, mais qui assume aussi sa petitesse. Et ça, il leur fallait l'apprendre ou le réapprendre aux hommes de Babel. Nous sentons bien, au fond, que cette tentative de faire l'unité a quelque chose de louable. Encore une fois, il ne faut pas la lâcher complètement. Ça dépend comment et avec quoi et avec qui on veut la faire. Ce que nous cherchons depuis si longtemps, nous avons essayé de le faire. Les empires, les civilisations qui sont plus qu'évoquées ici, toutes ces constructions humaines ont tenté depuis très longtemps de réaliser une forme d'unité. On peut penser à la Pax Romana aussi ou à d'autres tentatives du même ordre. Mais Dieu n'en finit pas de descendre brouiller notre signal pour en finir avec, non pas nos divisions sempiternelles, ça il nous appelle à y remédier, mais renoncer à certains outils qui sont bien tentants et que nous utilisons couramment pour essayer d'y parvenir, la plupart du temps de manière brutale, avec une fin qui est tout à fait éloignée de ce que nous avions visé au départ. Ça ne fonctionne jamais, notre affaire, jamais. Ici, comme dans le cas de Genèse 3, on ne trouve aucune trace de punition divine. Vous avez pu le remarquer en relisant, en réécoutant ce texte. Dieu descend et brouille. Il n'a pas envoyé le feu et le soufre faire s'écrouler cette tour et détruire la ville et tuer ses habitants. Rien de tout ça. Rien de punitif ici. Aucune trace de punition divine contre le projet de fond de l'humain qui le cherche, mais une condamnation par principe de certains de nos outils. C'est cela que nous retrouvons. L'intervention de Dieu ne nie pas notre projet. Dieu intervient pour en modifier l'esprit, la tournure et l'objectif. En dehors de la fameuse tour qui n'est pas détruite, il y a aussi une ville qui est bâtie autour, qui ne sera pas achevée. On dirait que la mesure d'encerclement de la tour par une ville, de construction purement humaine et purement horizontale, est arrêtée avant qu'elle aboutisse. Comme s'il fallait ne pas empêcher cette tour de pouvoir sortir, comme s'il fallait maintenir une forme de C, comme ça, plutôt qu'un O complètement refermé autour d'elle. Les hommes de Babel ont bel et bien le goût de la recherche de la verticalité. Et voilà une chose qu'il ne nous faudra jamais perdre, bien entendu. Elle occupe le cœur de la ville qu'ils sont en train de construire. C'est au centre qu'est cette tour. Qu'avons-nous construit, nous, dans les nôtres, à part des compagnies pétrolières, des banques et des compagnies d'assurance qui assurent la verticalité de certaines de nos cités, qui n'ont même plus, d'ailleurs, le goût d'être au centre, mais à l'extérieur, là où les affaires se font. Nous avons du vertical chez nous, mais il n'occupe pas le centre de nos villes. Il l'a déserté et il vise tout à fait autre chose que cette verticalité des hommes de Babel. Peut-être qu'il ne nous reste plus que ces piteuses tentatives de nous faire un nom. Pourquoi Dieu a-t-il brouillé le signal et pourquoi a-t-il arrêté la construction de la ville pour qu'elle n'enferme pas la tour? Peut-être qu'il fallait envoyer les hommes qui l'habitaient ailleurs, dans le monde, leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire ou pas faire aussi bien s'ils restent entre eux, dans un petit cercle bien fermé autour de cette tour. C'est pour cela qu'ils doivent partir. Vous savez qu'un secret peut être conservé très très longtemps. Mais l'objectif de ce secret est d'être divulgué un jour ou l'autre dans le bon lieu, le bon moment et à la bonne personne. S'il est enfermé dans un seul lieu, comme cette tour aurait pu être enfermée par cette ville, il n'y a plus de divulgation possible. Ce n'est plus un secret, c'est de la rétention d'informations. C'est grave. Les hommes de Babel sont envoyés par Dieu partout dans le monde pour transmettre ce qu'ils ont bien réussi chez eux et le transmettre à d'autres. Parce que chez eux, ça a marché. Une unité autour de la présence d'un Dieu, d'une verticalité au milieu de leur propre ville. Et c'est cela qu'on leur demande d'exporter. Dieu approuve cette tour, sinon il l'aurait détruite. Mais il ne veut pas qu'on s'installe égoïstement autour d'elle pour la garder pour soi, en l'enfermant par nos constructions horizontales. Ce que Dieu souhaite ici, c'est que les hommes de Babel deviennent des apôtres de verticalité partout dans le monde. Que sont devenus les hommes de Babel après leur départ? Personne ne nous le dit. Nous en sommes donc réduits aux suppositions. Faisons donc quelques suppositions. Celle-ci, par exemple, ils sont peut-être allés construire ailleurs d'autres tours du même genre. Babel est bien l'ouverture d'une parenthèse qui se refermera un jour à la Pentecôte. Et ces deux passages ne s'opposent pas. Ce sont deux manières différentes de nous convier au fond à la même chose, la verticalité de la tour ou le don de l'esprit de la Pentecôte, tout d'abord. Il faut d'abord mettre cela en premier, c'est la première chose à construire. Ensuite, l'horizontale de la transmission d'une unité éprouvée par nous, éprouvée parce qu'elle fonctionne bien entre nous, et partagée avec d'autres, pour terminer. Amen.